Et les matins débutent avec le journal de Margot Delpierre. Bonjour Margot.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Combien de morts à cause de la répression des manifestations en Iran ? Difficile de le savoir, Internet est coupé. Au moins 100 personnes ont été tuées, selon Amnesty International.
Un premier débat télévisé a eu lieu hier entre le Premier ministre britannique et le chef de l'opposition travailliste. Les législatives sont prévues le 12 décembre au Royaume-Uni.
Après 8 mois de grève, les personnels des hôpitaux sauront aujourd'hui quel plan d'urgence a prévu le gouvernement. Dépenses nécessaires, selon le député de la majorité Laurent Saint-Martin, vous l'entendrez. Nous reviendrons aussi sur le discours d'Emmanuel Macron hier au Congrès des maires de France. Et la question du jour, Guillaume.
Eh bien, dans une dizaine de minutes, Margot, plan pour l'hôpital, que peuvent espérer les professionnels de santé ? Je poserai la question à Jean-Pierre Hugo, il est professeur de pédiatrie à l'Université de Paris.
Après 4 jours de troubles en Iran, l'ONU s'inquiète de la répression des manifestations. Des rassemblements ont eu lieu dès vendredi dans plusieurs villes du pays, quelques heures après l'annonce d'une hausse du prix de l'essence en pleine crise économique. Et depuis samedi soir, l'Iran est quasiment coupé du monde. Les habitants sont privés d'Internet. Officiellement, 5 personnes sont mortes selon les autorités iraniennes. Mais le bilan serait beaucoup, beaucoup plus lourd, estime l'ONG Amnesty International, Christian Chesneau.
Dans cette répression à huis clos, difficile de dresser des bilans. Selon Amnesty International, au moins 106 manifestants dans 21 villes ont été tués selon des informations crédibles recueillies par l'ONG qui estime que le nombre des victimes pourrait même dépasser les 200 morts. Comme l'ONU, Amnesty dénonce l'utilisation de balles réelles pour disperser les manifestants, mais aussi la présence de snipers sur des toits d'immeubles qui tirent sur la foule. De leur côté, les autorités iraniennes minimisent les troubles. La situation est revenue à la normale, a même déclaré un porte-parole de l'institution judiciaire. Mais pas question pour autant de rétablir Internet dont le flux ne sera rouvert que lorsqu'il ne sera plus utilisé à mauvais escient, ont indiqué les autorités iraniennes. Ces dernières ont par ailleurs appelé la population à dénoncer les séditieux qui troublent l'ordre public. De leur côté, les gardiens de la révolution, colonne vertébrale de l'appareil sécuritaire iranien, ont d'ores et déjà averti qu'ils pourraient prendre des mesures décisives si d'aventure le mouvement de contestation se poursuivait.
Des tensions toujours vives à Hong Kong, cette fois entre manifestants et forces de l'ordre. Plusieurs dizaines de personnes étaient toujours retranchées hier soir sur un campus de l'ex-colonie britannique, malgré les appels des autorités à se rendre et les menaces d'intervention. Hier, le Sénat américain a adopté un texte à l'unanimité. Il soutient les droits de l'homme et la démocratie à Hong Kong face à Pékin. Les sénateurs menacent de suspendre le statut économique spécial accordé par Washington au territoire semi-autonome. En réaction, Pékin vient de convoquer un diplomate américain. L'armée israélienne a revendiqué ce matin une série de frappes aériennes contre des sites militaires en Syrie. Selon elle, en réponse à des tirs de roquettes la veille depuis le sol syrien. Israël, qui tente de sortir de l'impasse politique, Benny Gantz, rival du premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, avait 28 jours pour essayer à son tour de former un gouvernement. Ce délai expire aujourd'hui. Le temps presse également au Royaume-Uni. Les élections législatives anticipées sont prévues le 12 décembre prochain, dans environ 3 semaines. Hier, un premier débat télévisé a eu lieu entre le Premier ministre britannique Boris Johnson et le chef de l'opposition travailliste Jeremy Corbyn. Au cœur des discussions, évidemment, le Brexit. Aude Soufi, vous avez suivi ce débat pour France Culture.
Il a souvent dû lire ses notes, baisser la tête pour trouver ses mots. Pourtant, Boris Johnson n'a fait que répéter sa marotte, le même message qu'il ressasse depuis des mois.
To get Brexit done, to get Brexit done, get Brexit done, get Brexit done.
Mettre en œuvre le Brexit. Et pour que le pays sorte de l'Union européenne le 31 janvier prochain, il demande aux électeurs de lui donner une majorité absolue au Parlement. Même à cette question posée par un membre du public, qui est son leader étranger préféré, il trouve une pirouette pour enfoncer. C'est le clou.
J'aime les 27 dirigeants européens, tous. Ils m'ont donné un accord fantastique.
Face à lui, à l'inverse, Jeremy Corbyn veut parler d'autre chose. Sa position ambiguë sur le Brexit au cours des 3 dernières années l'a souvent mise en difficulté et sa proposition d'organiser un second référendum sur la question peine à convaincre des Britanniques lassés. Mais le travailliste compte sur son programme social pour séduire les électeurs.
C'est l'élection la plus importante de cette génération. Pour en finir avec la privatisation du système de santé, lui donner des financements pour s'attaquer à l'urgence climatique, pour investir dans de bons emplois pour notre pays.
Il reste 22 jours aux Britanniques pour se décider. Le vote par correspondance, utilisé ici par un électeur sur 5, commencera dès mardi prochain.
Et selon un sondage réalisé par YouGov juste après le débat, les téléspectateurs ont trouvé que Boris Johnson s'en était légèrement mieux sorti à 51% contre 49% pour Jeremy Corbyn. Dans ce contexte électoral et alors que les Britanniques sont profondément divisés, l'Église anglicane appelle aujourd'hui à ne pas propager la haine et les préjugés à l'égard de personnes en raison de leur religion, de leur culture ou de leur identité. Le chef de l'Église catholique devrait quant à lui bientôt délivrer un message contre les armes nucléaires. Le pape François est arrivé en Thaïlande où il restera 3 jours avant de rejoindre le Japon. Il doit notamment visiter le patriarche suprême des bouddhistes, car en Thaïlande, 95% de la population est bouddhiste, une pratique que le pape met sur le même pied que les autres religions, Bruce de Galzin.
Il y a 2 ans, en visite en Birmanie, le pape avait déjà marqué les esprits en comparant les paroles attribuées à Bouddha et à Saint François d'Assise, tous deux apôtres de la paix et de la non-violence. Aujourd'hui en Thaïlande, le pape veut de nouveau renforcer les liens d'amitié avec les bouddhistes dans un pays où la liberté religieuse est réelle et où le bouddhisme n'est pas religion d'État, mais où la Constitution prévoit depuis 2017 seulement des sanctions contre ceux qui profanent le bouddhisme, ce qui a inquiété les minorités chrétiennes et musulmanes. Le pape ne devrait pas l'évoquer. François a soif de dialogue avec toutes les religions et dans un but bien précis.
J'espère que ma visite contribuera à mettre en relief l'importance du dialogue interreligieux, de la compréhension mutuelle et de la coopération fraternelle, en particulier au service des pauvres, des plus nécessiteux et au service de la paix. En ce moment, nous avons besoin de beaucoup travailler pour la paix.
Le pape François est vu comme une icône du dialogue, selon le mouvement bouddhiste Rishoko Seikai, qui estime que cette conviction commune unit profondément les bouddhistes aux catholiques. Une conviction que partage l'interprète du pape, la sœur argentine Anna Rosa, la cousine de François, qui vit depuis plus de 50 ans en Thaïlande et appelle toujours le pape par son prénom.
La correspondance à Rome de Bruce de Galzin. François est le premier pape en plus de 30 ans à se rendre en Thaïlande et au Japon.
7h07 sur France Culture, la suite du journal de Margot Delpierre. Le gouvernement français doit dévoiler ce matin un plan d'urgence pour répondre à la crise dans les hôpitaux.
Parmi les pistes évoquées, un relèvement de l'objectif national des dépenses d'assurance maladie et une reprise par l'État d'une partie de la dette des hôpitaux. Cela veut dire des efforts budgétaires. La France en a-t-elle les moyens? La réponse de Laurent Saint-Martin, député La République En Marche du Val-de-Marne. Il est aussi vice-président de la Commission des finances de l'Assemblée nationale.
C'est d'abord une dépense nécessaire avant de se demander est-ce qu'on a les moyens et est-ce que c'est une dépense nécessaire. La réponse est oui. Nous n'avons pas attendu la crise d'ailleurs des hôpitaux pour nous en rendre compte. La question c'est est-ce qu'on a les moyens de le faire aussi vite et tout de suite. Là, la réponse est un choix politique à assumer. Est-ce qu'on préfère aggraver un petit peu le déficit, notamment de la Sécu, plus rapidement, quitte à essayer de le résorber un petit peu plus tard? Ça, c'est ce que les annonces du président de la République vont décider. Mais on sait qu'il y a besoin de moyens et d'investissements dans l'hôpital public. C'est pas nouveau. Si on veut vraiment mettre plus de moyens maintenant, c'est un peu comme ce qu'on a fait sur les mesures post-gilets jaunes, alors on peut le faire, mais il faudra accepter que le déficit se résorbe plus lentement. Voilà, moi je pense aujourd'hui qu'effectivement, sur le sujet de l'hôpital, sur le sujet de l'éducation, sur un certain nombre de sujets, il y a des priorités qui ne peuvent plus attendre. Donc effectivement, je préfère avoir un pays qui résorbe son déficit un peu plus lentement, mais qui met toujours dans la bonne direction, qu'un pays qui risquerait de gréver un certain nombre de ses services publics et leur efficacité au nom de la seule maîtrise des dépenses publiques.
Le député Laurent Saint-Martin, propos recueillis par Anne-Laure Jumet. On reparlera des hôpitaux dans la question du jour à 7h12 avec Jean-Pierre Hugo, professeur de pédiatrie à l'Université de Paris. L'Assemblée nationale a voté hier à une large majorité le projet de loi de finances 2020. Le Sénat l'examinera à partir de demain. Le texte pourrait être adopté définitivement d'ici la fin du mois de décembre. Un projet de loi qui se voulait une réponse au mouvement des Gilets jaunes qui a démarré il y a un an. Il contient notamment une réduction de 5 milliards d'euros de l'impôt sur le revenu pour 17 millions de foyers des deux premières tranches. La contestation s'organise à Radio France. Quatre syndicats, la CGT, la CFDT, le SNJ et Sud appellent à la grève à partir de lundi prochain. Ils veulent protester contre le plan de départ volontaire touchant près de 300 salariés du groupe public, dont fait partie France Culture, mais aussi France Inter, France Info et le réseau France Bleu notamment. Dans un manifeste publié aujourd'hui, 12 organisations réclament l'ouverture en urgence de places d'hébergement. D'après elles, 700 enfants dorment chaque soir dans les rues de Paris avec leurs parents. 20 000 mineurs vivent à l'hôtel en Ile-de-France avec là aussi leur famille. La République a le devoir de garantir un avenir à tous ses enfants et la pleine effectivité de leurs droits, estiment les associations. Le président de la République était occupé hier par l'inauguration du Congrès des maires de France. Son passage porte de Versailles à Paris n'était pas un franc succès. Au moins plusieurs dizaines d'élus ont quitté la salle pendant son discours. Il s'est défendu, notamment face à François Barouin, président de l'Association des maires de France. Stéphane Robert était sur place.
Le président de l'Association des maires de France, François Barouin, n'a pas mâché ses mots face à Emmanuel Macron hier après-midi.
Je reviendrai brièvement sur la taxe d'habitation. Comme tous les chefs d'État, et vous n'êtes pas le premier, vous avez décidé de supprimer un impôt qui ne vous appartient pas.
Et tout ça dit très calmement, avec le sourire.
L'AMF est un poil à gratter, ça peut parfois être désagréable, mais c'est pas très grave.
À ce moment-là, le chef de l'État, lui, n'avait pas le sourire, et prenant la parole, il a rendu les coups.
Sur la taxe d'habitation, si durant votre campagne, beaucoup de vos électeurs vous reprochent la baisse, faites-le-moi savoir.
Et puis Emmanuel Macron s'est longuement exprimé sur sa volonté de travailler en commun avec les maires, notamment pour contenir les tensions de la société française.
Je ne considère pas que ce que notre pays a vécu il y a maintenant un an, pendant des mois et des mois, soit totalement derrière nous. Cela vient de loin et cela durera. Cela exige beaucoup de force d'âme, de volonté, une volonté de transformer notre pays, d'agir, mais aussi tout en agissant d'unir et de rassembler.
Au bout du compte, son discours a été accueilli de façon mitigée. Plusieurs dizaines de maires ont quitté la salle pendant qu'il parlait.
Là, je suis parti parce que j'ai l'impression d'assister à un discours de campagne et on rentre pas trop dans le concret. Non, ça m'intéresse moyennement, mais après, peut-être c'est moi qui n'ai pas une bonne perception du discours du président.
Beaucoup d'autres, en revanche, sont restés.
Arrêtons d'écouter que les grincheux.
Pas nécessairement pour l'acclamer, mais quand même pour le soutenir.
On a quand même un président courageux qui ose faire les choses et il faut juste que les gens soient un peu plus positifs, un peu plus proactifs. Voilà, on ne peut pas tirer à boulet rouge tout le temps.
À quelques mois des élections municipales, Emmanuel Macron n'a pas complètement réussi à se réconcilier avec des maires qu'il avait fâchés tout rouge au début de son mandat.
Compte rendu de Stéphane Robert. Le département des Landes est toujours ce matin en vigilance orange pour des risques d'inondation. Météo France prévoit par ailleurs un temps bien gris sur une moitié nord du pays, avec du brouillard qui va se dissiper dans la matinée. Un ciel plus variable dans le sud. En Corse, on attend des averses orageuses ce matin. Vous aurez au maximum aujourd'hui 5 degrés à Lille, Strasbourg et Lyon, 6 à Paris, 8 à Brest, 10 à Bordeaux et 15 degrés à Nice.